Chapitre 30. En entendant Charles s'exprimer dans l'écho caractéristique de la chapelle souterraine, Vincent ne peut s'empêcher d'éprouver un malaise. Même si les circonstances ne sont plus les mêmes, cela lui rappelle la première fois qu'Addison lui a fait ces révélations qui ne cessent de le hanter depuis. La teneur de leur échange est cette fois bien différente, et Charles essaie d'expliquer, sans trop en dire, les recherches auxquelles il participe. Songez que Paris est une véritable cité. La vie s'y organise depuis des millénaires. Dès les premiers temps de l'Antiquité, des Gaulois aux Francs, puis des Romains aux Mérovingiens, les divers peuples l'ayant habité y ont déposé les témoignages de leur savoir-faire et de leurs aspirations. Ils ont chacun à leur tour apporté leur pierre à l'édifice dont nous héritons aujourd'hui. Aussi différents que soient leurs origines et leurs croyances, leur culture ou leurs rites, ce sont toujours à travers leurs lieux de culte qu'ils ont laissé les marques les plus impressionnantes de leurs aptitudes. Chacun a offert ce qu'il pouvait de mieux à ses dévotions. Depuis la nuit des temps, dieux multiples ou uniques font l'objet de démonstrations qui traduisent les ambitions spirituelles des habitants. Vincent le suit des yeux tandis qu'il marche de long en large. Ces sanctuaires concentrent les savoir-faire et symbolisent les idéaux. Ils abritent aussi certains trésors, parfois exposés aux yeux de tous comme des reliques ou des chefs-d'œuvre, et d'autres, plus précieux encore, dissimulés à l'abri de leurs murs. Documents, objets sacrés, la quintessence de ce qui a produit nos civilisations, tout ceci est aujourd'hui menacé. Notre siècle a entrepris de remodeler Paris. On coupe les quartiers, on recompose les espaces, on ouvre sans cesse de nouvelles voies. Pour la première fois depuis que Lutèce a vu le jour, on ne se contente plus de s'étendre. On fait désormais table rase de ce qui a toujours existé pour bâtir du neuf. On chasse ceux qui sont là depuis des générations pour faire la place à d'autres, plus fortunés. On rase des milliers d'habitations, on efface les collines, on perce, on arrache, on restructure pour bâtir de nouveaux logements, des restaurants, des boutiques et des lieux de distraction. La ville dévore ses faubourgs pour y installer les usines capables de produire tout ce dont le nouveau peuple a si faim. Les métiers utiles disparaissent au profit de nouvelles professions qui ne comblent plus aucun besoin, mais des envies. Les géographies évoluent avec les mentalités. Je comprends parfaitement, mais je ne suis pas certain de voir en quoi cela concerne nos affaires. Vous allez très vite saisir où je veux en venir. Ces grands travaux labourent la ville. Ils menacent des sanctuaires, parfois millénaires, et les trésors qu'ils renferment. Ceux qui étaient déjà connus peuvent être déplacés, mais certains ne sont pas aussi simples à gérer, d'autant que les déménager révéleraient leur existence, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Expliquez-vous. L'église sous laquelle nous nous trouvons en est le parfait exemple. La paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles ressemble à celle qui existe par dizaines dans Paris. Pourtant, son histoire enferme bien davantage que ce que les fidèles peuvent y distinguer. Cette église est l'unique rescapée de tous les édifices religieux qui jalonnaient la rue Saint-Denis. La chapelle souterraine, dans laquelle nous nous trouvons, a été creusée en l'an de grâce 1780, exclusivement à l'usage des chevaliers du Saint-Sépulcre, qui allaient perdre la leur située non loin d'ici. Il n'y a pas si longtemps, le bâtiment de surface a lui-même perdu les extensions de son abside lors du percement du boulevard Sébastopol. Vous le voyez, le réaménagement de la ville fait peser une menace constante sur des lieux dont les ingénieurs ne saisissent pas toujours l'incommensurable valeur. Que pouvons-nous y faire? Personne ne peut s'opposer à la marche du progrès. Ce n'est pas non plus ce que nous voulons. Nous cherchons simplement à sauver ce qui se cache dans cette ville et que l'époque détruit sans même s'en rendre compte. C'est une course contre la montre. On parle déjà de creuser des tunnels pour des trains souterrains, comme à Londres. L'exposition universelle exacerbe les appétits de travaux d'envergure. Le commerce n'a que faire de la foi. Il est évident que cette ville va céder au mirage de la possession matérielle. Nous sommes au seuil d'un avenir où la science des hommes sera souveraine. Tout dans l'attitude de Charles traduit sa conviction. Face à cette vague d'industrialisation des âmes, reprend-il, il nous appartient de préserver ce que nous ont transmis les temps immémoriaux. Nous ne pouvons pas sacrifier des siècles de connaissances, de spiritualité et de pouvoir qui dépassent nos perceptions simplement parce que d'autres modes ont les faveurs de l'époque. L'humanité ne s'est pas construite sur la recherche d'incessants désirs à combler, mais sur des idéaux donnant du sens aux nécessités. La vraie raison de notre existence ne se trouve pas dans les boutiques, Vincent. Elle est partout autour de nous, mais trop peu l'aperçoivent encore. Longtemps, le plus haut édifice de la ville fut une cathédrale. C'est aujourd'hui un extraordinaire perchoir de métal qui, pour quelques francs, entraîne chaque individu à des altitudes vertigineuses. Les corps s'élèvent facilement, pas les esprits. Même si j'étais d'accord avec vous, que viendrais-je faire là-dedans? Mes compagnons et moi sommes des archéologues du sacré, Vincent. Nous exhumons des trésors, des secrets enfouis, afin de les sauver de la destruction ou d'une découverte par des esprits profanes qui n'y verraient qu'une source supplémentaire de profit. Ces merveilles ne nous appartiennent pas. Nous ne faisons que les soustraire aux dégâts qu'engendre l'inconscience du modernisme. Contrairement à d'autres sociétés secrètes, nous ne prétendons pas détenir un quelconque mandat divin. Notre mission ne consiste pas à disposer de connaissances ou de pouvoirs qui nous dépassent, mais à les protéger. Vincent secoue la tête. Je vous admire, Charles, pas uniquement pour tout ce que vous semblez savoir. Vous me fascinez parce que vous croyez. J'envie votre espoir, votre foi dans un monde meilleur. J'aimerais tant les partager. Peut-être arrivez-vous trop tard dans ma vie. J'ai été le témoin de tant d'injustices que, parfois, je l'avoue, je me prends à douter de l'existence de Dieu. Je vous plains. Vous vous privez d'une grande force. Je ne suis pas malheureux pour autant. J'ai appris à faire sans lui. En êtes-vous certain? Charles, vous êtes un homme de grande expérience. Croyez-vous réellement qu'un jour, sagesse et connaissance guideront le monde? Connaissez-vous si peu la véritable nature des hommes? La vie ne m'a pas davantage épargné que vous. Mais je fais le choix de préserver les savoirs, les richesses et les messages venus du fond des âges pour qu'ils puissent servir à nos descendants. Peut-être seront-ils meilleurs que nous? J'ose l'espérer. Je prie pour qu'ils soient plus forts que nous. Peut-être même n'auront-ils plus besoin de Dieu pour les guider, parce qu'ils auront acquis la capacité d'agir avec justesse et humanité. J'ai bien peur que, si cela arrive un jour, vous ne soyez mort une seconde fois d'ici là, et moi aussi. Probable, en effet. Mais même si je n'en profite jamais, je crois quand même que cela doit être mené à bien. Vincent, pouvez-vous comprendre le sens profond de cette phrase? Car elle est la clé de nos actes. Les hommes mourront de n'agir que pour eux-mêmes. Ne devons-nous semer que ce que nous serons certains de récolter? Dès lors, la seule question qui vaille s'impose. Sommes-nous prêts à n'être que les graines d'un fruit que d'autres cueilleront peut-être? Sommes-nous capables d'agir sans gloire ni bénéfice, afin qu'un jour, ceux qui suivront puissent avoir une chance de réussir mieux que nous? Vincent n'a rien à répondre. Ces questions l'entraînent bien plus loin que toutes celles auxquelles il a été confronté jusque-là. Il existe des pouvoirs bien plus grand que les inventions avec lesquelles le peuple se distrait. Voltaire répétait que l'univers est une trop belle horloge pour exister sans qu'il y ait d'horloger. Ne trouvez-vous pas l'image de l'horloger assez pertinente? L'astronome Nicolas Copernic l'était de métier, comme Galilée, Huygens, et bien sûr messieurs Bégel et Robert Houdin, mon vieil ami. Nous sommes tous les rouages d'un monde qui nous transcende, Vincent. Dans quel sens voulons-nous le voir tourner? La référence éveille de nouvelles perspectives chez Vincent. Par-delà les techniques nouvelles, enchaîne Addison, par-delà les errements des religieux qui ont parfois altéré le message de leur père, tout ce qui fait de nous autre chose que des animaux doit être préservé. Chaque manifestation de ce qui nous dépasse doit être sauvegardée. On s'amuse, on s'émerveille des tours de nos sciences, mais ce n'est pas en s'étourdissant au point de se prendre pour les créateurs de toutes choses que notre espèce gagnera son salut. Notre siècle tire à sa fin. Le 20e est pour demain. Le futur est déjà là. Il sera sans doute celui de bien des découvertes. Mais qu'en ferons-nous? Bientôt viendra le temps où l'homme devra choisir entre se comporter comme un enfant irresponsable et avide de jouets, ou bien comme un être capable de choisir et d'assumer son destin. Ce moment crucial viendra, Vincent. Je vous le prédis. Il s'avance à chaque tour de cadran. Longtemps habitué à survivre au jour le jour, Vincent ne s'est jamais autorisé à penser le monde sous un angle aussi élevé. Pourtant, l'idée d'envisager toute chose avec hauteur lui est familière. Qui suis-je pour m'associer à d'aussi grands desseins? Le plus modeste des êtres est toujours un allié précieux lorsqu'il est de bonne volonté. Il faut réussir de petites choses avant d'en tenter de grandes. Robert Houdin jugeait que vous étiez l'apprenti le plus prometteur qu'il ait jamais rencontré. Avant qu'il ne soit trop tard, nous avons besoin de vous pour trouver et cacher d'inestimables trésors. Lorsque l'occasion se présentera, je verrai ce que je peux faire. L'occasion se présente, Vincent, plus rapidement que ce que vous et moi souhaiterions, dès cette nuit, dans un lieu que vous connaissez bien.